bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 48FM, il est 9h30, tout de suite votre journal présenté par Nathan Lacomble.
Bonjour à toutes et à tous, dans les titres de l'actualité aujourd'hui, ce mardi est la journée internationale des droits humains, l'occasion d'évoquer la situation de ces droits en Belgique. Dans ce journal, mise en lumière des problèmes fréquents pour les journalistes d'investigation, les intimidations. Enfin, de l'université de Téhéran à l'université de Liège, rencontre avec Nassim Azadi, jeune étudiante iranienne. Nous sommes le 10 décembre, journée internationale des droits humains, une opportunité d'évoquer la situation des droits des personnes en Belgique. Antoine Ramet a rencontré Sybille Gioé, présidente de la Ligue des droits humains.
Si la lutte pour les droits humains est un combat de tous les jours, la journée du 10 décembre est l'occasion de le mettre plus en avant. Cela représente aussi une occasion de faire un bilan sur la situation en Belgique. Sybille Gioé, présidente de la Ligue des droits humains.
Ce sur quoi la Ligue des droits humains a travaillé ces dernières années et va continuer de travailler, c'est en priorité l'état de droit. L'état de droit, c'est ce qui oblige les gouvernants à suivre le droit, à se sentir encadrés par le droit. Par exemple, en Belgique, il y a environ 10 000 décisions de justice qui n'ont pas été exécutées par les administrations concernant l'accueil des demandeurs d'asile. C'est une obligation internationale. C'est un droit humain de toute personne de pouvoir demander la protection internationale et d'être accueilli dignement pendant cette demande de protection internationale. C'est très inquiétant quand un gouvernement refuse d'exécuter des décisions de justice, car l'accès à la justice est un des mécanismes fondamentaux pour pouvoir s'assurer du respect des droits humains.
Si pour Sybille Gioé, il n'est pas possible de faire prévaloir un droit au détriment d'un autre, un thème doit tout de même retenir notre attention.
Je pense qu'il y a une vigilance particulière à avoir concernant le discours de haine. On comprend parfois mal l'articulation entre la liberté d'expression et le discours de haine. Il y a certains discours qui sont punissables par la loi, comme l'incitation à la haine, mais ce n'est pas parce qu'un discours n'est pas puni par la loi qu'il ne constitue pas un discours de haine, c'est-à-dire un discours qui vise à inférioriser une catégorie de personnes en raison d'un élément de leur identité. Par exemple, si on parle des allocataires sociaux en termes de assistés, ou qu'on parle des personnes étrangères comme des illégaux, des indésirables, etc. Et nous devons veiller à ces discours de haine, les dénoncer, leur opposer des contre-discours et des discours alternatifs, car ce type de discours remet en cause un principe fondamental qui est le principe d'égalité, absolument indispensable dans toute démocratie.
L'entreprise belge de l'année est liégeoise. C'est l'entreprise Screder qui a reçu le prix hier soir. Cette société qui produit des systèmes d'éclairage s'est imposée devant deux autres entreprises liégeoises, à savoir CE+T Group et Mellow. Restons à Liège avec le classement sans suite du dossier de l'incendie de la tour Kennedy. Cette décision a été prise le 22 novembre, mais vient seulement d'être confirmée par le parquet. Le rapport des experts a confirmé que l'incendie n'avait pas été causé par un acte volontaire. Passons maintenant à un sujet qui peut toucher tout journaliste d'investigation, les intimidations. Elles font partie intégrante du métier. Quentin Nordfalist nous en parle plus au micro de Quentin Coles.
Lorsqu'un journaliste réalise correctement son travail d'investigation, il risque de mettre en lumière des informations qui dérangent. Certaines personnes tentent alors d'intimider les journalistes pour les réduire au silence. Des intimidations pas toujours directes.
C'est plutôt une menace judiciaire qui est vraiment devenue quelque chose de très très courant dans le métier. Donc c'est ce qu'on appelle des procédures bâillons, avant que l'article ne soit sorti, ou des procédures d'intimidation judiciaire pour nuire à votre carrière, surtout comme indépendant, puisque ça prend énormément de temps.
Du temps perdu pour les journalistes, il peut alors devenir difficile de bien faire son travail, un problème qui se répand pour Quentin Nordfalist.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une pratique qui avant existait vraiment dans des pays très très durs pour la liberté d'expression, Congo, Colombie notamment, beaucoup de recours à la menace et aussi parfois passage à l'acte. Et maintenant, ça commence un peu à généraliser d'autres pays où on s'y attendrait moins.
Pour combattre ce fléau, les journalistes d'investigation peuvent recevoir de l'aide juridique de la part de leur rédaction ou bien de l'association professionnelle des journalistes.
Nassim Azadi, une étudiante iranienne, dépose ses valises à Liège, où elle a choisi de poursuivre ses études. Edmond Brice est allé à sa rencontre.
Il y a 3 mois, Nassim Azadi quittait l'Iran et ses restrictions pour un nouveau départ à Liège. Cet étudiant de l'université de Téhéran a troqué le voile obligatoire pour la liberté, mais se heurte désormais à un autre défi, la barrière de la langue.
La première difficulté pour moi, c'est la langue. Même coup, je parle français, mais en même temps, c'est vraiment difficile. Tu vois pas beaucoup de gens qui parlent anglais dans la partie française de Belgique. Je sais, j'ai entendu des autres que dans la partie Dutch, c'est mieux, ils parlent plus anglais.
Hormis la langue, pour Nassim, le système universitaire belge est beaucoup moins flexible que celui de son pays.
Le système éducatif de l'université, c'est un peu bizarre pour moi, par exemple, de choisir tous les cours au début de l'année pour tous les deux semestres. Ce n'est pas du tout en Iran ou les autres pays que je connais.
À quelques jours des examens, elle va devoir surmonter ses défis si elle veut réussir son année. Nassim en a pour 2 ans minimum pour terminer son master en journalisme, mais elle ne sait pas encore si elle retournera en Iran.
Place à l'actualité internationale avec vous Thomas, commençons d'abord par la situation en Syrie.
Oui, de fortes explosions ont retenti mardi matin à Damas. Selon des journalistes de l'agence France Presse, Israël aurait lancé 250 raids sur la Syrie depuis la chute du président Bachar al-Assad dimanche dernier. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'État hébreu cible depuis dimanche les principales installations militaires syriennes à travers le pays dans le but de les détruire.
Du plus positif avec la remise du prix Nobel de la paix.
Oui, le prix sera remis aujourd'hui en début d'après-midi au groupe japonais de survivants de la bombe atomique Nihon Hidankyo. Ces derniers militent contre l'arme nucléaire, menace redevenue d'actualité après 80 ans après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki.
Et aux États-Unis, un suspect a été arrêté lundi suite au meurtre du président de United
Healthcare, peut-être. L'arrestation a eu lieu hier soir en Pennsylvanie. L'homme se prénomme Luigi Mangione. Il est âgé de 26 ans. Il est suspecté d'être l'auteur du meurtre de Brian Thompson, président de la compagnie d'assurance United Healthcare. Arrêté à l'origine pour possession d'armes à feu, il a été inculpé pour meurtre ce matin. Il devrait être transféré devant le procureur de New York dans les prochains jours.
Place à la culture et aux jeux vidéo, le 6 décembre est sorti Marvel Rivals, un jeu de tir dans l'univers de Marvel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça cartonne. Il n'aura fallu que 3 jours pour atteindre le cap symbolique des 10 millions de joueurs partout dans le monde. Dans le jeu, 32 héros issus du Marvel Cinematic Universe s'affrontent en 6 contre 6. Le jeu a donc fait un excellent départ, à voir s'il continuera sur sa lancée. Et le prochain album d'Astérix est confirmé. Il sortira le 25 octobre 2025. Les deux Gaulois partiront en voyage dans un endroit où ils ne sont encore jamais allés. On fêtera d'ailleurs les 60 ans de l'apparition de leur chien Idéfix. Une exposition est d'ailleurs consacrée à leur fidèle compagnon au Centre belge de la bande dessinée à partir du 10 décembre jusqu'au 3 mars prochain. Place au football et la fédération belge qui a contacté Michel Preud'homme, Antoine.
Oui, c'est une info publiée par la RTBF. L'ancien entraîneur du Standard de Liège et du club de Bruges pourrait remplacer l'impopulaire sélectionneur Domenico Tedesco. Si Michel Preud'homme avait annoncé vouloir profiter de sa retraite aux îles Canaries, il se montrait pourtant enthousiaste vis-à-vis de la nouvelle génération de Diables Rouges. Michel Preud'homme n'a pas commenté pour l'instant les rumeurs.
Toujours en football, c'est une soirée de Ligue des Champions.
Le club de Bruges reçoit le Sporting de Portugal ce soir à 21h. Les Blauwzwart reçoivent les Lisboètes en confiance puisque les Brugeois restent sur une série de 3 victoires alors que leurs adversaires ont enchaîné eux 3 défaites de suite. Dans le reste des matchs de la soirée, le Bayer Leverkusen reçoit l'Inter Milan tandis que le Real Madrid se rendra à Bergame pour affronter l'Atalanta.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur 48FM.